Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Avec Rémi Barré, Jérôme Lavrieux, Anne-Sophie Saint-Père et Fred Hermel. On démarre tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. L'état de nos routes nationales est-il inacceptable alors que de nombreuses routes de France se dégradent depuis quelques années, faute d'entretien? Eh bien, vendredi dernier, c'est carrément toute une portion de l'autoroute A13 qui dessert Paris qui a été fermée à cause de fissures découvertes sur les voies. Un déclin de notre pays que déplore l'avocat des GG, Charles Consigny.
C'est le syndrome de notre déclassement, le symptôme plutôt de notre déclassement qui atteint y compris ça et qui atteint tout le reste, je pense, et d'une mauvaise utilisation des deniers publics puisqu'on finance tout et n'importe quoi. J'ai vu par exemple, c'est un exemple parmi mille, mais j'ai vu passer là que la mairie de Paris avait, on parlait des trans tout à l'heure, accordé une subvention de plusieurs centaines de milliers d'euros à une association de lutte contre la transphobie en Équateur. Et ça n'est pas un fake. Donc, consacrons nos budgets, notre argent à ce qui est quand même utile pour nous. Et je pense que globalement, il y a une très grosse réflexion à avoir sur le fléchage des dépenses publiques.
Est-ce qu'il faut mettre plus d'argent pour l'état de nos routes, Jérôme Lavrieux?
Moi, je pense qu'il ne faut pas en mettre plus et je pense qu'il faut mieux l'utiliser et que chacun fasse selon ses compétences. Les routes départementales, c'est de la compétence des départements, c'est à eux de l'entretenir. Les routes communales, c'est aux communes de dépenser de l'argent. Et parfois, il faut faire un arbitrage entre le énième feu d'artifice et réparer la rue qui traverse le village. Et puis l'État, les autoroutes non payantes, c'est du ressort de l'État. Et d'ailleurs, on critique toujours les autoroutes payantes. Elles sont dans un état extraordinairement efficace, celles en France. Et quand c'est soi-disant gratuit, ben c'est là où ça finit par nous coûter très cher, parce que pendant des années, l'État s'est désengagé. Vous savez, en Belgique, il n'y a pas d'autoroute payante. Hein. Et il y a un ministre belge qui, une fois constatant l'état des autoroutes, avait dit « Vous savez pourquoi les autoroutes sont éclairées la nuit en Belgique? C'est pour qu'on puisse voir les nids de poules ». Donc vous imaginez dans quel état c'est. Je pense que chacun doit se concentrer sur ses compétences. Et je suis pas souvent d'accord avec Charles Consigny quand il dit quelque chose, mais quand il dit on peut pas subventionner tout.
Ah oui.
Quand c'est pas dans nos compétences et être pris en défaut quand c'est dans sa compétence. L'état de la chaussée à l'intérieur de Paris, c'est de la compétence de la ville de Paris. Si elle le fait pas, eh ben c'est pas un problème de budget. C'est parce que peut-être elle dépense de l'argent à faire autre chose que ce qui est de sa compétence.
Et surtout, c'est hyper dangereux pour les deux roues, notamment.
C'est hyper dangereux pour tout le monde.
Un deux roues qui prend un nid de poule,
bien
c'est
entendu.
Fini, quoi.
Oui, donc, bien entendu.
On met en danger la sécurité de ces automobilistes et des motards.
Vous avez vu sur la 13 la pollution que ça engendre, 370 km de bouchons.
J'ai été bloqué samedi et je me suis demandé s'ils allaient me faire payer le péage ou pas. Parce qu'en fait, il y a un embranchement du péage, enfin du duplex, et je me suis retrouvée bloquée, j'ai pas vu, bref. Et je me suis dit, s'ils me font payer le péage là, je vais être un peu embêtée, étant donné que j'ai quand même mis une heure et demie pour faire 8 km, ce que je trouve plutôt trop, en fait. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que on doit consacrer plus d'argent pour nos routes? Est-ce que ça doit être une priorité?
Alors, je sais pas si ça doit être une priorité, parce que par exemple, moi, j'aime bien aussi qu'on investisse dans les transports en commun. Reste que, il faut avoir des routes en bon état. Ensuite, moi, je ne comprends pas tellement ce rapprochement entre des subventions à des associations qui permettent de lutter contre les discriminations et l'état des routes.
En Équateur. C'est en Équateur. C'est les impôts des Parisiens qui servent à financer une association en Équateur.
Oui, mais on peut aussi se dire que Paris, on est une ville qui rayonne à l'international pour la défense des droits.
Et
il y a probablement d'autres dépenses qu'on peut couper que dans ce domaine-là. Ensuite, je suis pas sûre qu'il y ait des nids de poules à Paris. La route.
Il y en a plein. Ah bah sur le périph.
Et d'ailleurs, on devrait moins conduire à Paris, ça abîmerait beaucoup moins les routes.
Pourquoi on conduit beaucoup moins à Paris?
Oui. Hein. Bah oui,
en tout cas, on conduit beaucoup plus longtemps.
Et tant mieux. Sur la route qui est fortement dégradée, je ne pense pas que ça relève de Paris, non?
Non, c'est une autoroute. Hein.
Voilà, d'accord.
Là, pour le coup, c'est
pour ça que du coup, le rapprochement me paraissait un peu bizarre.
Les GG, ce matin sur RMC, 500 euros d'amende pour le port d'une arme blanche. Est-ce une bonne mesure? C'est une expérimentation qui va être lancée dans 4 grandes villes de France par la direction des affaires criminelles. Toute personne qui portera une arme de catégorie D, telle qu'un poignard, une matraque ou encore une bombe lacrymo, se verra attribuer une amende de 500 euros. Un montant pas assez élevé pour la coach de vie des GG, Joëlle Dagosséry.
Je suis tout à fait d'accord pour cette amende. Je trouve même qu'elle est pas suffisant, honnêtement. Je trouve que 500 euros, vu ce qu'on traverse, c'est que dalle. Un minimum de 1500, ça me paraît raisonnable. Et encore. Ceci dit, dans la catégorie des armes qui sont mises dans cette amende, je m'inquiète quand même de la bombe lacrymo. Nous, les femmes, on se balade pas avec des canifs ou des poignards.
Bien sûr. Donc, tu voudrais faire la distinction.
Ouais, j'aimerais quand même qu'on fasse attention, parce que c'est notre outil entre guillemets de défense. Il y a beaucoup de femmes qui ont ça dans le sac. Voilà, donc j'aimerais qu'on examine un petit peu les catégories d'armes. Mais sinon, sur la proposition en elle-même, je suis complètement d'accord et je trouve que 500 euros, c'est vraiment pas assez.
Est-ce que c'est une bonne mesure, 500 euros d'amende, pour le port d'une arme blanche, Fred Hermel ?
Je me pose quand même quelques questions sur la faisabilité. C'est-à-dire que tu es dans la rue et un policier va venir te voir. Bonjour monsieur, montrez-moi vos poches. Est-ce que vous avez la guillole, un canif ? Voilà, enfin, j'ai du mal à voir comment ça va être contrôlé. C'est pour ça, il faudra quand même qu'il y ait certains indices. Donc, bien entendu qu'il faut. Bien entendu
que, en fait, à mon avis, si t'es contrôlé pour n'importe quel délit, on fait tes poches. Si t'as un opinel, tu prends 500 euros.
Oui, mais dans l'absolu, tu peux être contrôlé pour ça. À partir du moment où il y a une loi qui te dit
t'auras plus le droit d'en avoir.
De toute façon, on n'a déjà pas le droit d'en avoir. Donc, mais c'est pour ça, ça me paraît la mesure. Dans l'absolu, elle paraît logique, mais c'est dans l'application que ça me paraît un petit peu ridicule. Et je suis d'accord avec Joël sur les bombes lacrymo. Franchement, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont des bombes lacrymo. Alors, les bombes au poivre sont autorisées.
Exactement.
Mais les bombes lacrymo, mais je comprends qu'une bombe lacrymo soit nécessaire pour pas mal de gens qui rentrent tard le soir, qui sont dans les transports en commun, etc.
Même si
tu l'utilises pas, c'est peut-être un effet de te rassurer quand même à certains moments de la journée.
Anne-Sophie Saint-Père.
Oui, alors en fait, c'était déjà une interdiction. Que cache l'amende forfaitaire délictuelle, c'est la misère de la justice. C'est-à-dire que pour des délits, plutôt que de le faire traiter par une procédure judiciaire, on le fait traiter par les forces de l'ordre directement sur le terrain, ce qui pose plein de problèmes et qui d'ailleurs pourrait être contesté après. Et en fait, c'est vraiment le cache-misère de il n'y a plus assez de moyens dans la justice, qui est engorgé, donc on met cette responsabilité.
Il ne va pas aller dans un tribunal quelqu'un qui a juste un opinel dans sa poche.
Ça relève du délictuel, pas un opinel, parce qu'il y a une question de longueur de l'âme aussi.
Tu grilles un feu rouge, tu ne vas pas au tribunal.
Non, parce que c'est de la contravention. L'amende forfaitaire délictuelle, c'est dans le nom, c'est pour s'appliquer au délit. À partir du moment où tu étais dans le délit, tu devais passer dans le circuit judiciaire.
Oui, mais c'est une amende. C'est comme une contravention.
Non, il y a plein. Oui, mais il y a plein.
Contravention pour un délit.
Non, je suis désolée. On va refaire la base du droit pénal. Il y a les contraventions, les délits et les crimes. Pour des délits, tu peux être passible d'une contravention, mais par contre, ça passe devant le tribunal. Et c'est là aujourd'hui, on est en train de faire passer
les tribunaux.
Mais le problème, c'est que là, encore une fois, et j'en parle souvent, si on veut avoir une bonne justice, il faut avoir les moyens de la justice. Et l'amende forfaitaire délictuelle, c'est le pansement parce qu'on n'a pas assez de moyens dans la justice. Et voilà.
Jérôme Lavrieux.
Moi, je pense que c'est plutôt une bonne mesure, puisque auparavant, on contrôlait quelqu'un qui avait un couteau, s'il n'avait pas commis quelque chose d'autre. Vu le temps que prenait la procédure, le mec, il était convoqué dans 18 mois ou 24 mois après. Ça n'avait aucun sens. Donc, autant le faire là. C'est plutôt une bonne administration de la justice, plutôt que de mobiliser le type qui va faire le PV, la convocation au tribunal que tu vas recevoir en recommandé, qui va coûter une fortune aux contribuables.
Faudra-t-il que le contrevenant paye?
Oui, c'est bien le problème des amendes forfaitaires.
Forfaitaires délictuelles, elle existe déjà pour l'usage de cannabis.
Bien sûr.
Il y a 37% des amendes qui sont payées. Donc,
oui. Et une fois que tu es condamné par un tribunal qui t'aura convoqué dans 18 mois, 24 mois, qui va te condamner à 500 euros.
Tu vas pas les payer
d'amende, tu te poses pas la question si tu vas les payer ou pas. Donc ça va nous coûter double.
Mais c'est pas la panacée.
Ça, une mesure qui permet de désengorger les tribunaux, parce que les tribunaux ont autre chose à foutre, heureusement. Même si on avait 10 fois plus de juges, ils ont autre chose à faire que ça, pour quelqu'un qui n'a pas fait l'usage de cette arme-là. Et je pense que c'est beaucoup plus efficace. Et même s'il y a 30%, que 30% des gens qui le payent, ça fait déjà 30% des gens qui le payent. Et les autres qui se disent, maintenant, je suis rentré dans un fichier parce que je me suis fait gauler et que j'ai pas payé l'amende.
Je suis rentré dans un fichier, c'est inscrit au casier judiciaire. Et c'est là aussi que ça pose des questions sur le fait de ne pas passer devant un juge.
Les GG ce matin sur RMC. François Ruffin ferait-il un bon opposant à Marine Le Pen? Révélé par le journal Libération, un sondage indique que le député de la France Insoumise se qualifierait facilement au second tour de la présidentielle et aurait même des chances de l'emporter face à Marine Le Pen. Une victoire à laquelle croit Toumba. Il est auditeur RMC, il témoignait chez les GG ce matin.
Pour moi, il peut battre Marine Le Pen en présidentielle, parce que c'est un candidat qui est axé vraiment sur son côté humain, qui est vrai, qui dit des choses qui sont sensées, qui a un discours qui est correct, pas trop dans tout ce que la France Insoumise fait ces dernières années, en fait. Monsieur Ruffin, c'est quelqu'un qui est calme, qui est droit dans son discours, qui est droit dans ses bottes.
D'accord.
Contrairement à l'ensemble des députés de la France Insoumise, que ce soit.
Il incarne bien le pays.
Oui, totalement.
Alors, François Ruffin ferait-il un bon opposant à Marine Le Pen, Fred Hermel?
Sans aucun doute, oui, bien sûr, c'est un très bon politique. Mais est-ce que la France Insoumise va le laisser se présenter? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va laisser? Ça serait très compliqué. Je pense qu'il, s'il se présente, parce qu'il y a une réelle possibilité, ce sera en tant que dissident de la France Insoumise. Parce que Jean-Luc Mélenchon.
Après, il a une bonne cote auprès de la gauche.
Oui, il a une très bonne cote parce qu'il y a sûrement des socialistes, des vieux socialistes comme moi qui ne trouvent plus de vrais candidats à gauche, qui jamais ne voteraient Mélenchon, mais qui pourraient voter pour un Ruffin parce qu'il a un côté un peu social-démocrate aussi, un peu plus rouge, mais quand même un côté sérieux. Et c'est pas un dogmatique.
C'est quand même la France Insoumise.
C'est quand même la France Insoumise.
Social-démocrate, c'est pas une gauche molle, quoi.
Excuse-moi, entre Mathilde Panot et François Ruffin, oui. Je veux dire, c'est deux parties différentes.
On est d'accord, mais
franchement,
je suis pas sûr qu'on puisse se qualifier de social-démocrate quand même.
Mais les social-démocrates voteraient pour lui. S'il n'y a pas de vrai bon candidat à gauche, franchement.
Ça fait beaucoup de si,
ça fait beaucoup de si.
Ouais.
Mais le problème, c'est qu'il ne peut le faire qu'en tant que dissident, parce que quelqu'un doute que Jean-Luc Mélenchon ne va pas se présenter.
Bah, tout dépend. Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore dit qu'il se présenterait à la prochaine présidentielle. Il l'a pas dit.
Mais il fait tout pour tuer tous les autres.
Il ne présenterait pas.
Non, mais pour l'instant, il n'a rien dit.
Franchement, qu'il y a un doute là-dessus?
Ah oui, moi je pense, oui.
Ah ben, quand tu vois dès qu'il y a une tête qui ressort un petit peu, paf. D'ailleurs, chaque fois que François Ruffin a voulu critiquer un petit peu, etc., il a été rapidement replacé dans le rang.
Hein. Ouais, il est resté dans le rang.
Et il est resté. Ah, oui, parce que pour l'instant,
il attend.
Il attend pour sortir du bois.
Voilà, il va vite prendre son indépendance, tu verras. Anne-Sophie Saint-Père, François Ruffin, est-ce que c'est le meilleur candidat de la gauche pour vous aujourd'hui?
Alors moi, je suis vraiment nulle dans ce type de pronostic, donc j'ai envie de dire, d'après le sondage, ce serait un très bon candidat, et pourquoi pas? C'est juste, ça me paraît extrêmement tôt, mais pourquoi pas? Oui, effectivement, je pense que s'il y a une idée de réavoir une gauche au deuxième tour de l'élection, alors ce qui est un peu terrible, c'est qu'on est déjà en train de prédire que ce serait automatiquement le Rassemblement National en deuxième candidat, donc la droite a disparu dans le.
Et la gauche aussi.
Oui,
la gauche et la droite ont disparu. Oui, c'est.
Mais en tout cas, ça pourrait. Manifestement, ça pourrait être un bon candidat. Ensuite, moi, j'ai horreur des prédictions je me garderai bien d'en faire.
On est très loin de là.
Jérôme Lavrieux, il a ses chances, François Ruffin.
Mais si on écoute l'auditeur, il aime bien Ruffin tellement il trouve que Mélenchon est grave.
Oui.
C'est ce qu'il me dit. Non, il est pas comme Mélenchon. Du coup, je l'aime bien. C'est l'effet miroir. L'autre est tellement pire, comme diraient les enfants, que je prends le moins pire. Enfin, moi, de se dire que si on a comme seul choix le choix de voter entre l'extrême gauche et l'extrême droite, ça va être compliqué à vivre. Hein. Donc, je préfère qu'on ait le choix entre. Moi, j'ai toujours pensé qu'un pays doit être dirigé par des gens plutôt modérés. Ça évite les embarder malgré tous leurs défauts.
Après, le programme LFI, si on regarde, c'est le programme de Mitterrand en 80. C'est pas non plus.
Oui, on est en 2024.
Mitterrand qui a eu plusieurs périodes de sa vie.
Oui, mais
je
ne
suis pas sûr que le programme. Alors que c'est Mitterrand qui l'a fait sans aucun problème.
Je te rassure, je ne pense pas que Ruffin arrivera le couteau entre les dents. N'ayez pas peur.
C'est ce qu'on verra, peut-être.
Sinon, il aura une amende de 500 euros.
Il ne faut pas oublier quand même que Ruffin a fait le même collège catholique qu'Emmanuel Macron à Amiens plus. C'est pas un rouge-rouge.
Bon, c'est pas parce qu'on a fait un collège catholique qu'on va être rouge.
Le même collège catholique.
D'accord, mais c'est pas lui qui a choisi son collège, c'est ses parents, tu vois.
Mais je veux dire.
Non mais il a fait le choix d'aller à LFI.
Ouais.
Il a pas fait ça, c'est pas ses parents qui l'ont inscrit à LFI.
Il est toujours membre de la France Insoumise, dirigé actuellement par
Jean-Luc Mélenchon. Et on attend son commentaire sur les derniers propos de Mélenchon qui a comparé à un président d'université à un nazi.
On parlera ça dans les immanquables avec Rémi Barré tout à l'heure. Apolline Matin, ce matin sur RMC, êtes-vous prêt à changer vos habitudes au petit déjeuner? Que ce soit café, thé ou chocolat, le réchauffement climatique va peut-être nous obliger à changer nos habitudes alimentaires et le lait consommé par quasiment tous les enfants est particulièrement menacé. Les explications ce matin avec Martin Bourdin.
Est-ce que ça vous dit un peu de lait de chameau pour accompagner vos céréales ou vos tartines le matin?
Non. Moi, je suis.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
En tout cas, on n'aura peut-être bientôt pas le choix d'en boire du lait de chameau puisque c'est peut-être le lait du futur. Tout ça à cause du changement climatique. En fait, les vaches ne seront plus forcément aptes à survivre dans certaines zones du monde. Alors qu'on le sait, pour les chameaux, évidemment, la chaleur, ça pose moins de problèmes. Donc, les bébêtes à bosse utilisent aussi moins de ressources pour produire le lait que les vaches. Et donc, oui, il va peut-être falloir s'habituer au lait de chameau. Ce n'est pas forcément plus mal. Hein. Il contient plus de vitamine C et de fer que le lait de vache. Donc, c'est meilleur pour la santé.
Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines conséquences du changement climatique qu'on n'avait pas comme ça anticipé, comme boire du lait de chameau à la place du lait de vache. Oui, Fred,
on a interdit le défilé de chameau dans Paris.
Bah oui.
Eh ben alors il faut les écolos là, accordez-vous hein. C'est à cause des écolos le défilé de chameau.
Interdit le défilé de chameau, mais tu autorises le lait de chameau, ça n'a rien à voir.
Les chamelles.
Pour être précis.
Oui, chameaux, pardon, ça va pas être terrible. Oui, tu as raison. Bien sûr, c'est bien d'être précis. Bien sûr, tu as sinon ce serait compliqué. Il y aurait pénurie de lait certainement.